magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. On compte 1 million de décès annuels dans le monde dus au suicide, un chiffre qui pourrait passer à 1,5 million d'ici à 2020. Et à l'adolescence, le suicide est une des premières causes de mortalité. Alors plusieurs études ont montré que chez les jeunes décédés à la suite d'un suicide, 90% présentaient un trouble de santé mentale dans les mois précédant le décès. Les plus fréquents sont les troubles de l'humeur et l'abus ou la dépendance aux drogues et à l'alcool. Alors comment reconnaître un comportement suicidaire? Quels sont les facteurs de risque, les signes avant-coureurs? En quoi consiste la prise en charge des jeunes qui ont fait une tentative de suicide? Comment aussi aider les familles? Car ce drame provoque un véritable séisme dans la famille et l'entourage. Pour en parler, je reçois le docteur Didier Lorut, qui est pédopsychiatre, psychanalyste. Il est directeur du Centre médico-psychopédagogique Étienne Marcel à Paris. Et il vient de publier « L'énigme du suicide à l'adolescence » aux éditions Albin Michel. Et vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Dans cette émission, nous aurons également au téléphone le docteur Adel Omrani, qui est psychiatre à Tunis en Tunisie. Et pour terminer, on retrouvera la chronique du docteur Catherine Solano, qui nous dira comment se remettre d'une séparation amoureuse. RFI. Docteur Didier Lorut et docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Tout d'abord, docteur Didier Lorut, quels sont les pays les plus touchés par le suicide des adolescents?
Comme ça, globalement, c'est effectivement tout l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, mais tous les pays finalement, on va dire développés sur le plan industriel et économique, sont touchés par ce phénomène de façon plus importante.
Et est-ce que ça veut aussi dire qu'on n'a pas forcément tellement de chiffres là-dessus dans les pays en développement sur le suicide des adolescents qui peuvent être masqués par autre chose?
Alors, il y a moins de chiffres. Parce que c'est très difficile d'arriver à repérer, par exemple, lorsqu'il y a des conduites à risque, un jeune adolescent qui, en deux roues ou en voiture, prend des risques inconsidérés et finalement un accident, c'est pas considéré comme un suicide, mais plutôt comme un accident, par exemple.
Quels sont les facteurs de risque? Est-ce qu'on a réussi un peu à délimiter, à savoir?
Alors oui, certains. Alors il faut dire que nous avons intitulé ce livre, qui est un livre collectif, hein, l'énigme du suicide à l'adolescence, parce que ça reste pour beaucoup une énigme, y compris pour les proches et l'entourage, je pense qu'on en parlera. Il y a certains facteurs de risque qui sont répertoriés, hein, vous avez cité par exemple la dépression, la prise de toxiques, ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu isolé, qui est replié sur lui-même, ça peut être aussi des gens qui ont une propension, une facilité au passage à l'acte, par exemple, d'une façon générale, et qui donc sont facilités dans ce passage à l'acte suicidaire, mais il y a toute une constellation de facteurs, il n'y a pas forcément qu'un seul. Il est vrai que la dépression représente quand même un point important, et il s'agit bien sûr, à ce moment-là, non seulement de la diagnostiquer, de la repérer, et ensuite de faire en sorte que ça n'aboutisse pas vers le suicide. Parce que on sait très bien que dans la dépression, souvent, ça aboutit à des idéations suicidaires, pas forcément à un projet suicidaire réel, mais à des idéations qui sont déjà un premier pas vers le risque suicidaire. Oui.
Et est-ce que la dépression est peut-être plus difficile à diagnostiquer à l'adolescence, où on met peut-être plus de temps?
Alors oui, et nous on distingue en général la dépression, qui est ce qui ressemble à la dépression adulte, on va dire, de ce qu'on appelle la dépressivité. La dépressivité, ça serait quelque chose qui ressemble à la dépression, qui aurait des symptômes moins intenses et surtout moins durables, mais qui sont tout aussi douloureux à vivre de la part de l'adolescent, et souvent mis sur le compte de « bah, ça n'est qu'un adolescent, c'est un passage, ça va s'arranger ».
Oui, c'est ça, tout le monde va mal à l'adolescence.
Voilà, c'est une banalisation, alors que... À la fois, il faut pouvoir le prendre au sérieux lorsque, surtout, les choses s'installent un tout petit peu dans la durée.
Je vous propose d'écouter le témoignage d'Eliane. Elle est mariée, elle a 3 enfants, Fiona, 25 ans, Malvina, 24, Serena, qui en avait 16. Quand elle s'est suicidée, elle en aurait eu 20 le 18 janvier prochain. Cela s'est donc passé il y a 4 ans, le 19 janvier, le lendemain de son anniversaire. À cette époque, la famille vivait à Bangkok pour des raisons professionnelles. Des propos recueillis par Pauline Mocor.
Elle avait 13 ans. Bon, elle était, lorsqu'elle était au collège, un petit peu renfermée, elle n'avait pas beaucoup d'amis, n'était pas très bien dans sa peau. Mais rien vraiment de gravissime à mes yeux, en tout cas. Pourtant, je pense qu'au vu ensuite de ce qu'on a retrouvé, elle a laissé beaucoup de lettres le jour où elle a décidé de partir. Elle avait écrit je crois, une douzaine de lettres aux gens qui lui étaient proches, donc pour les parents, nous, à son père en particulier, au tout dernier moment, parce que moi, j'étais partie ce jour-là. J'avais pris l'avion pour rentrer en France. Je pense que si j'étais pas partie, il ne serait pas parti non plus.
Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?
Parce que j'ai retrouvé dans son téléphone portable un texto envoyé quelques heures avant son geste fatal, disant « Et en plus, maman est partie ce matin ». C'est quelque chose qui est très lourd à porter pour moi, tout le temps.
Qu'est-ce que vous auriez pu faire si vous étiez restée ? Vous pensez que ça aurait changé quelque chose ?
Je suis persuadée que ça aurait changé quelque chose. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression d'avoir un très bon contact avec ma fille. Nous, de ce qu'on voyait avec nos yeux de l'extérieur, entre 13 et 16, elle s'est épanouie physiquement, elle est devenue vraiment une très jeune fille. Elle s'est fait plein de copines, elle a commencé à sortir comme petite jeune fille, à aller au cinéma, à rencontrer des amis, à aller dans des fêtes. Mais bon, le problème, c'est que quand on voit les photos de la veille de son suicide, elle a un sourire jusqu'aux deux oreilles aussi. Alors là, ben on se dit qu'en tant que mère, on a quand même un peu loupé quelque chose en disant « Bon, tu n'as pas su lui donner le goût de la vie, bon, parce que la vie, malgré tout, c'est ça. C'était le monde qui lui faisait peur, le fait d'avoir à se battre pour avoir un emploi, pour mener une vie heureuse. Toutes les choses qu'elle avait sans doute l'impression de ne pas du tout pouvoir changer. » Je pense qu'elle a cru qu'elle n'était pas faite pour ce monde. Le reste du temps, quand on discutait avec elle, elle discutait de façon tout à fait sensée. Et je me demande encore souvent comment j'ai pu ne pas voir qu'il devait forcément y avoir quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas que moi. Moi, je ne voyais pas, mais j'en ai parlé à ses deux sœurs qui n'ont rien vu. Son père n'a rien vu. Et j'ai encore quelques contacts avec certaines de ses proches amies. Et je leur ai demandé, mais elle vous a dit quelque chose un jour, elle a fait quelque chose un jour, bon, dites-le-moi, quoi. Et elles m'ont dit non, on se doutait de rien.
Et la disparition de Serena, qu'est-ce que ça a changé dans votre famille, dans vos rapports avec vos filles, avec votre mari ?
Ça change beaucoup de choses. Plus que mes rapports, c'est peut-être mon comportement qui a changé. Enfin, au début, surtout parce que lorsque vous perdez un enfant, malheureusement, il prend toute la place. Sa place à lui et la place du monde entier. Donc il finit par faire de l'ombre aux enfants qui sont encore vivants. Mes enfants m'ont aidé à tenir debout. Mais je pense qu'elles ont dû sentir effectivement un éloignement de ma part.
Pendant combien de temps ?
Des mois où on peut plus. J'arrivais plus à penser normalement, j'arrivais plus à vivre normalement, j'arrivais plus à lire, j'arrivais plus à rien faire. On veut juste tout arrêter.
Est-ce que vous avez de la colère envers Serena ?
Oui, on a de la colère. Bon, là, elle s'apaise un petit peu, mais ça remonte de temps en temps. Mais une bêtise comme celle-là, comment je fais maintenant pour punir ?
Est-ce que vous êtes la personne de la famille qui se pose le plus de questions à ce sujet ?
Écoutez, ça c'est difficile de vous dire, parce que dans la famille, chacun vit son deuil et l'absence de la personne à sa façon, à sa vitesse. On en parle avec mon mari, mais on ne chemine pas à la même vitesse. Et je pense que les questions qui se posent sont probablement pas les mêmes que celles que je me pose moi. Et quant à ses sœurs, je ne sais pas, parce qu'on parle peu de leur petite sœur, peut-être par pudeur, peut-être parce que aussi au début, quand on en parlait, en règle générale, je pleurais, donc elle ne voulait pas me rendre plus triste que je ne l'étais déjà. D'un autre côté, de ne pas en parler, ça me fait beaucoup de peine et beaucoup de mal. Parce que quand on m'en parle pas, c'est comme si elle n'avait jamais existé, donc je déteste ça.
Est-ce que vous arrivez à sortir de ce manque présent ?
Disons que je vis avec, mais je pense que je resterai un peu un pied en dehors du monde dans lequel je vis maintenant.
Priorité. Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous parlons du suicide des adolescents. Docteur Didier Leroux, vous venez d'entendre ce témoignage d'Eliane. Vous avez pris beaucoup de notes, donc j'imagine que vous avez des choses à nous dire par rapport à ce témoignage.
Oui, le premier point, ça revient sur l'énigme et l'incompréhension d'un geste. Une jeune fille qui se développe tout à fait comme plein de jeunes filles, qui est peut-être un peu repliée sur elle-même, mais qui n'a pas de soucis vraiment majeurs et particuliers. Et c'est un témoignage très poignant et très touchant en même temps, parce que, comme le dit cette maman endeuillée, elle n'a rien vu venir, et personne n'a rien vu venir. C'est vrai qu'il y avait quelques témoignages, alors après coup, mais c'est des paroles adolescentes, ça aussi, qu'elle a sur son téléphone, même maman est partie ce matin, sans doute comme tous les matins, mais ce matin-là, c'était très différent. Et ce qui est terrible, c'est que, dans certains cas, heureusement assez rares, on ne voit rien venir parce que il y a ce qu'on appelle, nous, des raptus anxieux, c'est-à-dire une crise d'angoisse extrêmement intense qui arrive tout d'un coup et où la seule idée qu'ont les gens à ce moment-là, et les adolescents en particulier, c'est d'en finir, c'est de mourir et c'est d'utiliser n'importe quoi pour se mettre en acte leur volonté suicidaire. Et que ça, c'est très difficile d'y échapper, c'est difficile de le prévenir. Et en même temps, dans ce témoignage, le deuxième point important, ce qui me paraît, c'est bien sûr la culpabilité. Et que la culpabilité, il n'y a pas que les parents, il y a l'entourage, il y a la famille dans son ensemble, il y a les frères et sœurs, il y a voir les grands-parents, il y a toute la famille et l'entourage amical est très touché par cela. Et personne n'est exempt de ressentir cette culpabilité.
Même le personnel soignant, d'ailleurs.
Bien sûr, bien évidemment aussi, parce que c'est parfois terrible de s'être attaché à des patients, à des adolescents, parfois, et de voir que, effectivement, comme c'est dit là, très bien, que rien n'a pu empêcher ce geste suicidaire et le côté irréversible. C'est-à-dire que c'est en même temps la confrontation à la mort. Et à la mort, d'une façon particulière, parce que les plus anciens meurent quand ils ont l'âge, etc., ça fait partie de la vie. C'est l'évolution normale de la vie et de l'humain, quoi. Mais que des jeunes meurent, c'est quelque chose qui va à l'encontre du cycle des générations, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui est choquant, quoi.
Et comment vous faites pour aider ces parents?
Alors, d'abord, ça prend beaucoup de temps. Ce témoignage le montrait. Cette dame disait des mois, je pense que ça peut durer des années.
C'est-à-dire ça a eu déjà il y a 4 ans sans qu'elle ait temps.
Voilà, tout à fait. Et que là, c'est quelque chose qui est un phénomène très individuel, qui est finalement le processus du deuil, le travail du deuil, comme on dit régulièrement, qui peut prendre un temps. Parfois, on s'aperçoit que même 10, 15 ans après, les gens ont cette douleur tout à fait intacte, comme si c'était au premier jour. Donc là, on peut aider les gens qui souffrent trop de ce deuil en les accompagnant, les aidant, les faisant parler, en laissant déployer une parole de douleur et de souffrance. Ça ne ramènera pas la personne disparue, mais au moins, ça leur permettra de tenir et d'essayer d'aller de l'avant et de s'occuper des vivants, parce qu'il y a des vivants qui sont là quand même.
Ça veut dire, docteur Leroux, que c'est important dans ce genre de situation de se faire aider par un psy?
Oui, si le besoin s'en faire sentir et si la souffrance est trop insupportable. Ça veut pas dire que tout le monde a besoin de se faire aider, que je crois que dans les systèmes familiaux, il y a aussi des systèmes d'entraide, de paroles, en Afrique on dit de palabres, hein, et que je crois que c'est très important de parler et de pas s'enfermer dans un silence qui là ferme effectivement les choses et empêche que la souffrance puisse se dire et s'échanger. Vous voyez, quand elle disait, cette dame, que finalement même ses enfants n'osaient pas lui en parler parce qu'ils voyaient la souffrance que ça produisait chez elle, alors que oui, bah, tout le monde souffre, mais il faut souffrir ensemble, c'est ça la vie aussi.
Et parler.
Et parler surtout.
On a Gaëlle qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Gaëlle, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour docteur.
Nous vous écoutons.
Oui, bon, pour moi, j'avais une voix question là. Bon, pour une personne méprisée, peut-être maltraitée, même marginalisée, à ce moment, on peut dire que le suicide n'est pas une forme de rédemption. Cette personne souffre et puis pour mettre fin.
Alors Gaëlle, la ligne téléphonique est vraiment pas très très bonne, mais on va quand même essayer. Expliquez-nous pourquoi vous posez cette question.
Bon, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans l'enfance. À tout moment, j'avais des altercations là avec le papa et c'est une idée qui m'est venue plus d'une fois. Surtout en 2006, j'ai failli me suicider. Heureusement que mon petit frère était là à côté. C'est lui.
Et aujourd'hui, Gaëlle, vous allez comment?
Bon, je dis que j'ai dépassé cette étape-là puisque j'ai mûri. Et ma, surtout, j'ai une amie qui vit cette situation-là. D'où ma deuxième question, c'est comment faire pour m'aider à une personne qui vit cette situation. Voilà. Parce qu'elle est malade et à tout moment...
Comment on peut aider quelqu'un? On va essayer de répondre à votre question, Gaëlle. Docteur Didier Lauru, d'abord, les idées suicidaires sont assez fréquentes à l'adolescence. Il y a des chiffres un peu qui disent le nombre de fois où ça a traversé l'esprit des gens.
Oui, alors, il faut distinguer d'abord l'idée de la mort d'idées suicidaires. On appelle ça des idéations suicidaires. Pour les différencier d'autres choses dont je parlerai après. C'est-à-dire que l'idée suicidaire, on dit à peu près environ 10%, c'est très variable, mais environ 10% des adolescents, et des adolescentes bien sûr, ont des idées suicidaires, ce qui fait partie en même temps du processus adolescent, c'est-à-dire que c'est la question... c'est là où on réalise vraiment, on l'a déjà réalisé dans l'enfance, mais pas tout à fait de la même manière à l'adolescence, on réalise qu'on est mortel, qu'on peut mourir un jour et qu'on va mourir un jour, ce qui est... Bon, accepter l'ordre naturel des choses, mais en même temps, c'est parfois angoissant et ça suscite quand même des angoisses. Alors, c'est un premier temps, à la limite, c'est une variation de la normale, je dirais, d'avoir des idéations suicidaires, mais il faut les prendre en compte quand même, éventuellement, là encore, peut-être que l'adolescent puisse échanger avec d'autres. Le stade d'après, c'est le projet suicidaire, c'est-à-dire que quelqu'un commence à penser sérieusement à cela et à se dire, tiens, il faudrait que je stocke des médicaments ou comment faire, vous voyez, qui prépare un scénario suicidaire et un projet suicidaire. Et là, ça devient assez inquiétant parce que le risque de passage à l'acte est encore plus important.
L'aide des proches, dans ces cas-là, Gaëlle nous dit que son petit frère l'a aidé. Effectivement, il y a d'un seul coup une personne qui peut...
Tout à fait. Et je crois que ce qu'on peut conseiller à chacun, soit qui ressent des idées suicidaires, soit qui voit quelqu'un dans son entourage suffisamment mal pour se dire il y a quelque chose qui se passe, je crains qu'il puisse se suicider, à ce moment-là, c'est d'essayer de l'aider, de le faire parler, de voir son souci et surtout de percevoir ses limites. C'est-à-dire que si on se sent débordé, on se dit je suis impuissant à pouvoir aider telle ou telle personne, même si je l'aime beaucoup, à ce moment-là, l'aider, le conseiller d'aller voir des gens avec qui, des professionnels avec qui ils pourront parler. Et c'est-à-dire percevoir bien ses propres limites, ça c'est très important.
Et se faire aider donc par des professionnels dans ces cas-là. Merci beaucoup Gaëlle et bon courage à vous. Docteur Didier Lauru, on dit qu'un tiers des tentatives de suicide sont récidivantes, Comment fait-on pour aider ces personnes qui ont fait des tentatives de suicide?
Alors, oui, on s'est aperçu, disons, dans toutes les statistiques internationales, que le fait d'avoir fait une tentative de suicide déjà dans le passé est un facteur de risque aggravant, c'est-à-dire qu'on a encore plus de risque de faire une autre tentative de suicide. Et là, comme les personnes, enfin en tout cas, quand les tentatives de suicide ont été authentifiées en tant que telles, parce que tout le problème, c'est qu'il y a nombre de tentatives de suicide qui ne sont pas prises en compte, c'est-à-dire... On dit, bon, il a eu un petit problème, un petit accident, mais...
Il a fait une prise de risque.
C'était une prise de risque, et on banalise.
Ou une bêtise,
il a fait une bêtise, mais il faut pas dire ça. Il faut, au contraire, dire, ce qui s'est passé est grave, même si quelqu'un prend, je sais pas, 4 comprimés d'aspirine, mais dit, je voulais me tuer. 4 comprimés d'aspirine, on peut dire, c'est rien. En fait, c'est pas rien, ça peut être dangereux, d'une part. Et surtout, ce qui est dangereux, c'est la volonté de l'acte suicidaire et de le prendre en compte. Et à ce moment-là, de l'aider, de le faire soigner. Là, il faut des professionnels pour l'aider, l'entourer, l'encadrer et faire au minimum des psychothérapies au long cours. À certains moments, il y a les médicaments. Personnellement, je suis pas très pour par rapport aux adolescents. On peut très bien s'en passer. Dans certains cas, par contre, il faut pas hésiter à prescrire des antidépresseurs. Mais c'est tout un ensemble. Et en même temps, il faut tenir compte de l'entourage familial et d'aider les parents à aider leur propre adolescent.
Et vous l'avez dit, docteur Lauru, dans ces cas-là, il faut une thérapie. Dans la deuxième partie de cette émission, vous nous direz un peu en quoi consiste cette thérapie, quel travail vous faites avec ces adolescents qui ont fait des tentatives de suicide. On se retrouve donc dans 3 minutes après les informations et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22.